VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Élection en République démocratique du Congo, fin du suspense dans le pays, alors que la période du dépôt des candidatures à la présidentielle du 23 décembre arrivé à échéance à 15h30 temps universel ce mercredi. Le nom du candidat de la coalition au pouvoir qui succédera à Joseph Kabila à la tête de la majorité présidentielle, Chadari Ramazani, qui vient de déposer sa candidature à la présidence. Plus de détails dans nos prochains bulletins. Au Cameroun, 9 candidats sur 28, dont le président sortant Paul Biya, ont été retenus pour la présidentielle du 7 octobre, qui se prépare dans un contexte de crise sécuritaire. Les principaux opposants retenus sont Joshua Ossi du SDF et Gorga Amandji de l'Alliance pour la démocratie et le développement. Plus de détails sur ces différents candidats avec le politologue Moussa Njoya, qui a été joint par Nathalie Barge.
Au vu de la liste des 28 candidats qui avaient initialement déposé leur dossier avant le retrait volontaire du candidat Isaac Seze, il n'y a pas de grande surprise parce que les 9 candidats qui ont été retenus sont ceux qui ont premièrement eu la capacité de verser les 30 millions de cautions, ce qui n'a pas été le cas de tous les candidats, notamment les candidats indépendants, mais également ceux qui remplissaient les conditions de l'article 121 du Code électoral camerounais, à savoir que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut que le parti qui vous investisse ait au moins un conseiller municipal ou un parlementaire, soit un député ou un sénateur élu. La deuxième chose, c'est qu'en dehors des grands routiers, Amoud Ndjoya et Garga Amandji, ainsi que Paul Biya, le reste des 6 candidats sont essentiellement des novices cette fois-ci qui s'engagent à la course pour la présidentielle.
Par rapport au SDF, le fait que John Frundi ne soit plus dans la course finalement et que ce soit donc Joshua aussi qui prennent la relève. Qu'auriez-vous à dire?
Nous avons déjà eu des cas où il y a des passations de témoins à la tête des partis politiques, notamment avec le mandat de Kane Anissé, mais c'est la première fois qu'un président d'un parti politique aussi important que première force de l'opposition accepte de ne pas concourir pour laisser la place à un autre. Il remplit davantage la condition de jeunesse. Mais il se fait voler la vedette par des candidats. En principe, on l'appareil de moins d'importance tels que Maurice Kamto ou même Cabral Ibi, qui offre une plus fabrication médiatique dans une large mesure.
Par rapport à cette demande de coalition pour un candidat unique, est-ce que cette fois-ci on pourrait avoir une chance avant le 7 octobre pour que cela se produise ou est-ce que c'est vraiment une utopie?
Candidat unique, c'est une utopie. Un certain nombre d'acteurs, 1, 2, 3 candidats coalisent pour faire face au président Paul Biya, cela est tout à fait possible. Mais compter avoir un candidat unique de l'opposition avant la date de la présidentielle est une utopie.
Et si le président sortant l'emportait, est-ce que, selon vous, cela permettrait de régler ou non la crise sécuritaire au Cameroun?
Cela dépendra de 2 choses. La première chose, quel est le sens que la société donnera à sa victoire? Est-ce qu'on estimera que c'est une victoire méritée ou une victoire volée? Cela conditionnera la réponse de la société globalement. Deuxième chose, est-ce qu'il profitera de cette campagne électorale pour adresser un ensemble de préoccupations des populations anglophones. Donc, ici, les facteurs sont assez nombreux, mais dépendra également de ce que l'opposition prendra comme option. Est-ce qu'ils prendront une éventuelle victoire du président Biya ou bien est-ce qu'ils opteront pour la contestation de celle-ci?
Le politologue camerounais Moussa Ndjoya, joint par Nathalie Barge à Yaoundé, au Cameroun. Élection au Mali maintenant, le Conseil constitutionnel doit annoncer incessamment ce mercredi les résultats officiels du premier tour des présidentielles. Étape cruciale qui permettra le démarrage de la campagne pour le second tour du scrutin prévu le 12 août. Concernant ce second tour, les observateurs de l'Union européenne ont appelé hier le gouvernement malien à observer davantage de transparence et à garantir l'accès aux bureaux de vote à l'élection de dimanche prochain. Pour leur part, les principaux dirigeants de l'opposition, notamment Soumaïla Cissé, qui a fini deuxième au premier tour après le président Ibrahim Boubacar Keïta, ont tenu un meeting à Bamako mardi pour dénoncer la fraude aux élections. Le point avec Irénée Herman Ongo.
Il serait souhaitable que les autorités prennent toutes les mesures nécessaires de manière à garantir le droit de vote à tous les électeurs, a souligné dans un communiqué Cécile Biengue, responsable de la mission de l'Union européenne. Suite à la publication des résultats officiels provisoires, 17 des 18 candidats de l'opposition ont constitué une plateforme pour dénoncer ce qu'ils appellent la dictature de la fraude. Notre pays a trop souffert pendant 5 ans et ne mérite pas ça, a déclaré Soumaïla Cissé qui appelle à la mobilisation. L'ancien Premier ministre Tchèque Modibo Diarra arrive quatrième au premier tour était le grand absent de la manifestation. Pour l'analyste politique Souleymane Drabo, l'union de l'opposition ne serait qu'une façade. Il y a un front uni pour contester les résultats. Il n'y a pas de front uni pour donner des voix à Soumaïla Cissé, principal opposant au président Ibrahim Boubacar Keïta.
Afrique de l'Ouest toujours, en Côte d'Ivoire, l'ex-première dame de la République Simone Gbagbo a été libérée ce mercredi après avoir été amnistiée par le président ivoirien Alassane Ouattara. A annoncé son avocat, Maître Blédé Doré. Madame Gbagbo a quitté l'école de gendarmerie où elle était détenue depuis 7 ans vers midi 15, heure locale et universelle. Elle doit regagner sa résidence du quartier de Cocody à Abidjan où l'attendent un millier de sympathisants.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, le préfet de la région du Poule, le colonel Georges Kilébé, et la commission paritaire mixte pour la paix dans cette région proche de la capitale Brazzaville ont officiellement lancé mardi à Kinkala l'opération de ramassage d'armes détenues par les ex-ninjas du pasteur Tata Ntoumi. Mais cette cérémonie s'est déroulée sans la présence des représentants du pasteur Ntoumi qui avaient pourtant participé à la préparation de cette étape. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin fait le point.
Les représentants du pasteur Ntoumi, membres de la commission paritaire mixte, avaient souhaité la présence de leur chef à cette cérémonie. Ils ont sollicité un décalage de quelques jours pour que Ntoumi sorte des bois et assiste au lancement de l'opération à Kinkala. Franck Eloge Mpassi, l'un des porte-parole de Ntoumi, a expliqué à VOA Afrique qu'il était important que le pasteur Ntoumi lui-même donne le coup d'envoi de l'opération en montrant le modèle à ses miliciens. Séraphin Ondélé, le président de la commission, a indiqué que cette opération de ramassage ciblait quelques 3000 armes de tout calibre. Sur place, aucune arme, cependant, même symboliquement, n'a été remise aux autorités. Séraphin Ondélé a demandé à tout détenteur d'armes de la déposer. Au moment où se tenait la cérémonie de Kinkala, Philippe Anébibi, le représentant personnel du pasteur Ntoumi et par ailleurs vice-président de cette commission mixte, s'est trouvé dans la forêt pour ficeler un programme de sortie avec le révérend. La commission mixte paritaire a déjà identifié une dizaine de sites dans le pool où devrait se rendre chaque ex-combattant avec son arme. Il y a quelques jours, lors de la levée des poursuites contre le pasteur Ntoumi, la commission avait prévenu contre toute injonction politicienne dans le processus de ramassage d'armes. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Togo, une enquête est ouverte après les actes de profanation de plusieurs mosquées à Lomé, la capitale. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Justice. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Ce sont des actes crapuleux et ignobles, des actes criminels. Leur but est certainement de provoquer des conflits interreligieux, mais ils n'y arriveront pas parce que la main de Dieu est sur notre pays, a déclaré Puis Agbotome, ministre de la Justice à la télévision nationale. 4 mosquées ont été profanées dans des quartiers situés en périphérie de Lomé à la fin du mois de juillet et début août par des inconnus qui ont saccagé l'intérieur des lieux de culte, puis ont déchiré et brûlé des exemplaires du Coran. Mardi, l'Union musulmane du Togo a condamné ces actes de vandalisme et a invité la communauté musulmane à ne pas céder aux provocations et à redoubler de vigilance pour la sécurisation des lieux de culte. Les différentes communautés religieuses cohabitent pacifiquement au Togo, mais pendant les nombreuses manifestations qui secouent le pays depuis un an, certains responsables politiques ont parfois accusé certains imams du Nord d'alimenter la contestation pour islamiser le Togo.
Et pour terminer, au Zimbabwe, l'opposition zimbabwéenne a confirmé ce mercredi qu'elle allait contester devant la justice les résultats de la présidentielle du 30 juillet remportée par le chef de l'État sortant Emmerson Mnangagwa. Selon Maître Tabani Mpofu, avocat du MDC, le mouvement pour le changement démocratique du chef de l'opposition Nelson Chamisa, le recours devrait permettre de montrer au monde ce qui s'est réellement passé lors du scrutin, a-t-il souligné. Par ailleurs, un responsable de l'opposition Zimbabwe, Ntendai Biti, a été arrêté aujourd'hui à la frontière du Zimbabwe avec la Zambie. Il était recherché pour incitation à la violence. Merci de votre attention.